toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Quoi de commun entre un pharaon noir venu du Soudan, un justicier dans l'Auvergne du Moyen-Âge et un prince désargenté amoureux d'une princesse dans l'Empire ottoman du XVIIIe siècle? Eh bien, ce qui les réunit, c'est l'amour des contes et un créateur unique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Ce cinéaste qui aime raconter des histoires, qu'elles aient pour cadre l'Afrique, le Maghreb ou même le Japon, c'est Michel Oslo, bien sûr, qui après Kirikou, Azur et Asmar et Dilili à Paris, vient nous présenter ce samedi son nouveau long-métrage d'animation, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse. Bonjour Michel Oslo.
Bonjour Sophie et Elisabeth.
Et merci de venir dans tous les cinémas du monde. À l'affiche de notre séance également ce samedi, le journal du cinéma et puis l'ouverture d'un nouveau cinéma à Dakar.
Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire?
Celle que vous voulez.
Je voudrais qu'elle se passe en Égypte.
Non, au Soudan.
Non, au Maroc.
Non, en Auvergne.
C'est où l'Auvergne?
C'est où je suis née.
Ils n'ont pas d'histoire.
Si, ils en ont beaucoup. Et s'ils n'en avaient pas, je les inventerais.
Une histoire d'abord avec une femme.
Non, d'abord avec un homme.
En tout cas, ils s'aiment.
Ils s'aiment même si les autres ne veulent pas.
Avec des costumes.
Des bijoux. Une histoire très sérieuse.
Ah non, très fantaisiste.
Une immense armée.
Non.
Avec une chanson.
Arrêtez les massacres.
Avec une balle rouge.
Non, une couronne rouge.
N'importe quoi.
Un chameau.
Avec des princesses.
Il y en a marre des princesses.
Avec un bourreau.
Mais ça va pas.
Une vie douce dans une petite
non,
maison.
Des beignets.
Mais arrêtez. Elle peut pas raconter tout ça.
Oh non.
Mais si. Vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes.
Tu vas nous en raconter plusieurs?
Oui. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Et au bout d'un moment, je m'ennuie.
Moi aussi.
Ça, c'est le début de votre film, Michel Oslo. C'est une jeune femme moderne qui parle à des spectateurs. On a reconnu la voix, je pense. C'est Aïssa Maïga qui double cette conteuse. Et donc, la conteuse annonce le programme du long métrage, soit trois histoires. Est-ce que vous aussi, vous vous ennuyez avec une seule histoire, Michel Oslo?
Les histoires ont des durées à elles. Faire toutes les histoires avec une heure et demie est probablement une erreur. J'aime les contes et j'aime l'animation. Les contes et l'animation sont très à l'aise avec une durée limitée parce que ce sont des moyens d'expression intenses qui n'ont pas besoin d'heures et d'heures pour se faire comprendre. Et il faut bien se rappeler qu'une chanson, ça peut être très fort, et plus fort qu'un opéra. Et une chanson, c'est, prenez votre chronomètre, c'est 3 minutes. En 3 minutes, on peut dire quelque chose qui reste pour la vie. Et il se passe aussi autre chose dans ma vie. J'ai un peu vécu, et les enfants de Kirikou ont poussé. Et maintenant, ce sont des beaux adultes qui viennent me remercier. Remercier avec émotion. Et je réalise que tous les petits contes que j'ai racontés ont été aussi forts que les longs contes d'une heure et demie. Et que ces petits contes qui ont tellement aidé des enfants à pousser, et ils me le disent, qui ont donné aussi des vocations de se retrousser les manches et de faire quelque chose, et quelquefois de faire franchement du cinéma et du cinéma d'animation. Je me dis, mais ces histoires qui ont leur bonne durée, il faut les continuer, même si ça n'est pas, ouvrez les guillemets, commercial, fermez les guillemets.
D'où ces trois histoires très différentes, donc rassemblées dans Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Est-ce que c'est l'histoire du Pharaon qui a initié ce nouveau long-métrage?
Non, parce que l'envie de faire des histoires moins longues, mais plusieurs, m'est venu tout de suite après Dili à Paris, à partir du moment où on a refermé l'atelier de Dili à Paris, mon cerveau n'avait le droit que de penser à Dilly pendant 6 ans. Là, tout d'un coup, il avait le droit de penser à autre chose. Alors j'ai pensé à des chansonnettes plutôt qu'à des opéras. Et donc l'idée de 3 histoires intenses au lieu d'une était en place tout de suite. Le Pharaon, c'est une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. Le musée du Louvre m'est tombé dessus.
Comment ça?
Le président directeur du musée du Louvre m'a demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. J'avais jamais pensé à ça et je lui ai dit, je ne vois absolument pas ce que je peux faire avec le Louvre. J'aimerais bien, mais je ne vois pas. Et en cours de discussion, il m'a parlé d'une exposition en construction. Et là, il y a eu un jaillissement chimique entre 2 choses qui se sont rencontrées. L'Égypte antique, dont je suis amoureux sans interruption depuis la 6e, c'est beau. C'est beau, je comprends tout de suite. Et mon enfance, mon école primaire à Conakry en Guinée. Donc deux passions, ça fait une bombe atomique. Et j'ai dit, à propos de bombe atomique, je peux vous faire un petit dessin animé si vous voulez. J'ai obtenu tous les documents de l'exposition. C'était fascinant.
Donc une exposition sur les pharaons noirs.
Oui. Et dans cette exposition, j'ai pu repérer, grâce à des traductions évidemment, diverses aides, une stèle du songe où chaque pharaon a fait des stèles pour raconter sa vie passionnante. Et là, elle s'appelle stèle du songe parce qu'elle commence par le songe d'un petit roi couchite nord du Soudan. Il rêve qu'il part à la conquête de l'Égypte. Et quand il se réveille, il y va et il fait la conquête de l'Égypte. Et j'ai pris ce périple, assez précisément aussi les dieux rencontrés, mais j'ai rajouté des dieux que j'avais envie de montrer, comme Isis, je ne pouvais pas me passer d'Isis. Et j'ai remplacé le songe par une jeune fille. Voilà comment est arrivé le pharaon. Il faut aussi ajouter que j'ai eu un plaisir immense à travailler avec le Louvre, à travailler avec Vincent Rondeau, qui est le chef du département égyptien du Louvre et qui est aussi le grand spécialiste de cette dynastie couchite qui me plaît beaucoup.
Tanou et Kamani.
Nassal, ça.
Maintenant que mon père est mort, ma mère en fait un dieu. Pour le trahir. Épouse d'un dieu, elle est plus puissante. Et moi, plus inaccessible.
Ton père voulait notre union et celle de nos 2 pays. Elle te donne un pharaon.
Non, nous sommes trop loin. Elle sait que pharaon n'entendra jamais parler de moi.
Alors pourquoi dit-elle qu'elle te mariera à pharaon?
Pour ne jamais me marier et conserver le pouvoir. Car si je me mariais, elle ne serait plus régente et je serais reine.
Tu es ma reine.
Deviens mon pharaon.
Tu te moques de moi, comme ta mère?
Ma mère parle de pharaon pour que je ne me marie pas. Deviens pharaon pour que je t'épouse.
Tu es folle.
Non, je t'aime et je crois en toi. Tu es un jeune roi, mais tu as déjà conquis des provinces et tu les as gardées. Car tes fantassins et tes archers sont aussi des maçons et des jardiniers.
Alors l'histoire du pharaon venu du Soudan, dans cette histoire, Michel Oslo, en fait, c'est motivé par une histoire d'amour. Le jeune prince va remonter le Nil, conquérir l'Égypte pour les beaux yeux d'une princesse dont il est amoureux. Ça, c'est né de votre imagination. Vous avez parlé de la stèle du songe.
Ah oui, donc mon imagination, j'ai enlevé le songe et j'ai mis une princesse à la place. Parce que c'est... En fait, j'aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aime les princesses.
Oui. Et vous aimez les histoires d'amour en général.
J'aime les histoires d'amour et c'était beaucoup plus intéressant. Je fais aussi une. D'abord, je montre une princesse égyptienne. C'est beau. Toutes les princesses sont belles, mais les princesses égyptiennes particulièrement. J'introduis aussi quand même deux femmes dans une histoire où il n'y avait pas de femmes du tout. Il y a cette princesse qui est autonome. Elle fait du sport, c'est-à-dire elle pêche au harpon, comme son papa sûrement, mais bon, elle le fait, et elle sait lire et écrire. ce qui ne plaît pas à sa mère. Et sa mère, c'est un personnage intéressant parce qu'il existe aussi dans l'histoire couchite, les reines-mères étaient très importantes et on les voit sculptées sur des bas-reliefs égyptiens où tout le monde est comme en Égypte, bien dessiné, fin, etc. Et tout d'un coup, il y a une dame grosse et c'est la mère qui a même un nom, ça s'appelle des Candaces, c'est une Candace, et elle règne, et ça fait partie de l'histoire du Soudan antique, les Candaces, voilà, et c'est une personne qui est goûtée au pouvoir et qui ne veut pas le lâcher.
Alors graphiquement, c'est somptueux, on retrouve vraiment votre patte, Michel Oslo, le goût pour les couleurs. Mais ici, dans cette histoire, le pharaon, souvent les personnages sont représentés de profil, comme dans les hiéroglyphes. Vous avez respecté une certaine charte graphique égyptienne antique.
Ah oui, mais j'ai tout copié. Je suis un artiste de Ramsès II et je dessine naturellement égyptien. Et puis, il se trouve que de grands artistes ont travaillé pour moi pendant 3000 ans. Et j'utilise ce qu'ils ont fait. C'est magnifique et je ne change pas.
La morale de l'histoire est belle. En fait, c'est une conquête sans coup férir. Il n'y a pas de bataille.
C'est aussi un aspect de cette dynastie couchite. Il n'était pas cruel. Il y a des dynasties qui étaient très cruelles. Les Assyriens, c'est un cauchemar. Et ils savaient pardonner. Alors là, je suis allé un peu trop loin parce que le héros qui prend de plus en plus d'assurance et il arrive à la fin à haranguer deux armées, des princes et des généraux et à arrêter la guerre. Et ça me va bien comme ça.
Et en même temps, c'est un conte qui ne manque pas d'humour. Il y a un leitmotiv qui revient dans la bouche des dieux invoqué par le prince ou en tout cas vu en songe. C'est « qui vivra, verra ». Il y a un aspect, ça c'est un aspect soit comique, soit une véritable morale que vous transmettez.
Non, je pense que je me moque un peu des dieux. Ils ne foutent rien. Et la morale, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais j'étais content de les montrer, même ils ne servaient à rien. J'avais très envie de montrer les dieux, ils sont si beaux.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. On reste un peu dans votre univers imaginaire, Michel Oslo, parce qu'on va écouter un titre de Fatoumata Diawara.
Ah, quel plaisir!
Sowa.
Sowa, sowa, wa. Sowa, aïe. Sowa, sowa, wa. Mamadara zuru lahi kone bina kumasa Nebe sara la muzohula hatunu nya muzohula kula mogelema Ibe kono ta segena kide mulo segena kika no la mo abada Kataga la mola ibo di la mola kika no tono dun abada Sa ah 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 So wa so wa wa So wa Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mokoro Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikatala mwola Nide muzo mani bibolo Ikana dikatala mwola Denje mani bibolo Ikana dikatala mwola Ovena ni ndo zoka siye Ovena ni sonjae Sa a
Fatoumata Diawara dans tous les cinémas du monde. Vous la connaissez bien, Michel Oslo, Fatoumata.
Nous avons travaillé ensemble pour la comédie musicale Kirikou et Karaba sur scène. Ça a été un immense plaisir. Toute la comédie était intéressante. Et quand j'ai vu arriver cette gazelle, je me suis dit, elle est très jolie, et j'aime beaucoup quand elle chante, mais elle ne peut pas être Karaba. Et puis, elle l'est devenue. Et puis, une petite chose auquel je pensais pendant qu'elle chantait, c'est aussi une personne qui noble, qui croit à ce qu'elle fait. Et je lui dis, le hurlement de Karaba, quand on arrache l'épine, on va l'enregistrer une fois, tu vas te péter les cordes vocales une fois, mais ensuite, plus on en verra, l'enregistrement extrême. Et elle m'a dit, non, je hurlerai pour les femmes tous les soirs. Magnifique. Elle l'a fait.
Michel Oslo, d'une manière générale, vous apportez un grand soin au choix des interprètes de vos personnages d'animation. Bon, là, on parlait Fatoumata Diawara, c'était sur scène, mais d'une manière générale, les personnages de vos films sont donc doublés par des comédiens. C'est un moment crucial, le choix des voix.
Oui. Alors déjà, je vais me permettre de corriger votre vocabulaire. Pas doublé. Parce que ce sont d'abord des créations de comédiens et l'animation vient après. Parce que c'est très facile à faire. Les comédiens font de la création dans un auditorium et ensuite, il y a un montage idéal fait avec leur voix et les animateurs arrivent et font une dictée. Ils suivent la dictée et comme ils sont bons, ils ont toujours zéro faute. Quelquefois, félicitations du jury.
Ah oui, d'accord.
Et c'est comme ça qu'on fait si on fait bien.
D'accord, oui, parce que ce n'est pas forcément la manière de faire de tous les metteurs en scène d'animation.
Non, ce n'est pas toujours la manière, mais dans mes films, ça n'est jamais du doublage.
D'accord.
C'est de la création.
Ah oui, donc vous commencez par le choix des comédiens, alors
enfin... Ah oui, oui. Pour le choix des comédiens, je fais comme tout le monde. Et il y a
vous faites un casting
Comment
Vous faites un casting
Oui.
D'accord.
Quelqu'un qui d'abord choisit des comédiens pour moi et qui les choisit bien. Et je fais ensuite des auditions plus fines et je prends les meilleurs.
Donc par exemple, là, dans ce nouveau film, dans Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, on va pouvoir reconnaître les voix d'acteurs de la comédie française. Il y a notamment Didier Sandre et Serge Bagdasarian.
Oui, j'aime bien les gens qui savent prononcer.
Oui, c'est vrai. Hein.
c'est tout bête, mais ça me plaît beaucoup.
Oui, parce que c'est une particularité que l'on retrouve dans tous vos films, Michel Oslo. Déjà, il y a une limpidité des dialogues, dans l'écriture même des dialogues.
Merci.
Et puis, effectivement, des acteurs qui articulent bien. Enfin, sans que ce n'est pas forcé, mais il y a une diction particulière.
Tout le monde me dit ça. Comme si mes films étaient en langue étrangère, et je suis très surpris, parce que j'ai pas le souvenir de dire aux comédiens comment articuler, mais je pense qu'on est ensemble et on s'influence les uns les autres. J'ai pas le souvenir d'avoir demandé « parle mieux que ça, s'il te plaît ». C'est venu naturellement. Il y a aussi peut-être des secrets... d'une fabrication qui peut être mauvaise. C'est-à-dire que je fais moi-même les storyboards. Ensuite, l'animatique, c'est un élément passionnant. On scanne toutes les vignettes du storyboard et on en fait un montage cinéma. Et c'est comme si on lisait une BD en prenant son temps, enfin, ou le temps qu'il faut, et en entendant tous les dialogues. Et à ce moment-là, c'est vraiment du cinéma... du cinéma de cinéaste et de monteur. Et je travaille avec un monteur, une monteuse, pour faire un très bon montage. Et toutes les voix sont d'abord dites par moi. J'ai une très grande qualité en tant que comédien. Je suis gratuit. Donc je reprends autant qu'on veut. Et quand, en cours de montage, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le redis. J'invente une nouvelle phrase si elle manquait. Cette animatique avec ma voix, en général, je le fais écouter aux comédiens qui aiment bien ça et qui me disent « Maintenant, on sait ce que tu veux, t'as pas besoin de nous guider, on sait. » Mais peut-être c'est pour ça qu'il parle bien, parce que quand je fais mon enregistrement, j'essaie de bien le dire, de me faire comprendre par tout le monde, et peut-être que cette manière de dire les syllabes jusqu'au bout les influence.
Alors, le deuxième conte qui apparaît dans votre nouveau long métrage Michel Oslo, c'est Le Beau Sauvage. Là, on est transporté dans l'Auvergne du Moyen-Âge.
Prisonnier, voulez-vous me rendre la balle ? Merci, prisonnier. Prisonnier, pourquoi à chaque fois attendez-vous que je parle pour me rendre la balle ?
Pour entendre ta voix, c'est une musique qui me rend la vie. Et elle me rappelle une autre musique, la voix de ma petite fille, qui me manque plus que tout.
Comment est-elle ?
Elle est belle comme l'aurore et gentille. Gentille comme un ange.
J'aimerais bien jouer avec elle.
Oh, délice. Oh, désespoir.
Le Beau Sauvage. D'où vient ce conte, Michel Oslo ? C'est une histoire traditionnelle d'Auvergne ?
C'est une histoire traditionnelle recueillie par un amoureux de son Auvergne natale, Henri Pourrat, qui écrit d'une manière exquise, et son conte commence plus joliment que le mien. Mais cette dureté, je ne l'aurais pas inventée, c'est sa faute.
Oui, parce que là, vous parlez de dureté parce qu'il y a un seigneur particulièrement cruel qui martyrise son fils et va le condamner à mort parce qu'il a libéré un prisonnier. Comme dans les contes.
Donc c'est une chose que je n'aurais pas inventée tout seul, mais... Quand on voit le film, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs passages qui vont battre le cœur. Ça m'a beaucoup plu et je l'ai adopté. Comme d'habitude, j'ai rajouté une jeune fille. Vous entendez, il aime la musique de la voix du garçon, le prisonnier, qu'on ne voit pas. Mais ça lui rappelle aussi la voix de sa petite fille. Alors, j'ai mis une petite fille et à la fin, on la retrouve. En fait, ces deux premières histoires, c'est que des histoires de mecs, mais j'ai quand même rajouté... C'est pas une princesse, hein, exceptionnellement, c'est la fille du duc.
Michel Oslo, est-ce qu'on peut parler du style de chaque conte, hein ? Chaque conte a son style très particulier. Le troisième, le marchand de beignets, dont on parlera tout à l'heure, c'est un style très coloré, c'est des couleurs extraordinaires. Le premier, les couleurs sont plus classiques, enfin moins chatoyantes. Mmh. Et là, ce conte donc, du Beau Sauvage, il est dans une sorte de jeu extraordinairement sophistiqué, entre le noir, le gris et les couleurs. Comment il se définit ? Comment vous le définissez, le style ? Est-ce que c'est chaque histoire qui amène son propre style ?
Je fais trois histoires complètes. Pour moi, ce sont trois longs métrages qui durent ce qu'il faut. C'est trois longs métrages complets, autonomes. Et comme je m'offre le luxe de trois au lieu d'un, je change tout à chaque fois. Et c'est l'histoire qui commande. C'est l'histoire qui commande la durée. Je n'ai pas dit combien elle ferait. Elle s'est déroulée toute seule. Et pour la technique, elle a été dictée par l'histoire. Il était évident que pour l'Égypte, je ne pouvais pas faire mieux que les Égyptiens. J'ai tout fait pareil, épaulé par Vincent Rondeau, grand spécialiste de l'Égypte et de cette époque. Pour le second... je suis revenu à une technique qui m'avait permis de faire des films alors que j'avais pas d'argent, la silhouette noire, l'ombre chinoise. J'aime cette silhouette noire, elle est austère, elle est stylée, elle a de la tenue, elle est lisible alors qu'elle ne dit pas tout. À l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du noir. Ça va très bien avec cette histoire un peu dure. Vous avez bien remarqué qu'il y avait du noir, de la couleur et du gris. Et ça me plaît aussi. J'ai fait une histoire austère, avec le gris des pierres de lave. J'ai pris l'Auvergne au sérieux. Je suis allé en Auvergne, j'ai parlé des gens, parlé aux gens deux fois, automne et printemps. J'ai célébré l'Auvergne aussi sérieusement que je l'ai fait pour le Tibet ou le Japon. Et j'ai eu du plaisir à utiliser ces pierres grises que Gérard ne montre pas. Et c'est magnifique et impressionnant.
Et puis le troisième conte du film, c'est une histoire d'amour savoureuse. Hein, c'est vraiment le cas de le dire, entre un prince sans couronne et une princesse turque au XVIIIe siècle.
Princesse des roses. Mais un portrait, c'est vraiment insuffisant.
Tu as ajouté quelque chose au beignet, crétin ?
Oui, une pincée de cannelle, pour innover un peu.
Ici, on n'innove pas. On suit la recette.
Faites-moi goûter. Un équilibre parfait. J'en prendrai une douzaine.
Tout de suite, chère madame.
Quelle coutume bête de se marier sans connaître l'autre. Et cette princesse des roses, j'aurais volontiers fait sa connaissance.
Place ! Place au grand vizir !
Un beignet, je vous prie.
Oh. Eh bien, malotru, apporte un beignet à son excellence, le grand vizir.
Cannelle. Son Altesse, la princesse des roses, désire manger des beignets du marché. Ces beignets nous conviendront. Vous en livrerez 30 au palais, dans l'heure.
Je vais voir la princesse.
Imbécile ! Une princesse, ça ne se voit pas. D'autant moins qu'on est un marchand de beignets.
On dit qu'elle est très belle.
On dit n'importe quoi.
Certains ont vu un portrait.
Son père envoie des portraits à tous les princes disponibles.
Voilà, c'est un conte délicieux, hein, Michel Oslo, cette histoire d'amour entre un prince des beignets et la princesse des roses. Il y a une débauche de couleurs, il y a énormément de choses à regarder entre les décors, les habits somptueux. On est dans une... Alors, on est où ? On est à Istanbul, mais dans une sorte d'Istanbul de fantasmagorie ?
On est clairement à Istanbul, parce que depuis longtemps, je voulais utiliser les superbes costumes turcs. Il fallait que j'utilise les costumes turcs. Et puis, les décors, des palais délirants. Alors, j'ai essayé de les rendre un petit peu plus délirants. J'ai aussi quand même évoqué... la Turquie, l'Anatolie, un endroit où toutes les civilisations se sont croisées. Et dans les cris des marchands dans le marché, on entend que cela vient de tous les pays, d'alentour, que c'est une civilisation riche. Mais à part ça, contrairement aux deux autres qui sont très historiques, c'est là pour s'amuser. J'ai pris des beaux costumes, des beaux décors. Et ensuite, j'ai fait ce que je voulais. J'ai joué avec deux amoureux. Ça vient de 36 contes à la fois, mais en particulier des Mille et une Nuits. Il y a un prince à qui sa grand-mère apprend à faire des beignets. Ça me plaisait que la mère d'un prince dise « Je vais t'apprendre à faire des beignets, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Et ça me plaît. Donc j'ai utilisé ce prince qui sait faire des beignets. Et j'ai rajouté une princesse qui sait faire la confiture de rose. Elle s'ennuie comme un rat mort dans son palais. Et alors, elle fait de la confiture de rose. Et pour le reste, j'ai joué aussi avec là, vous avez entendu la voix du vizir, mais attendez d'écouter le sultan et son costume extrêmement riche.
Là, il faudrait presque une dégustation aussi dans les cinémas.
On fait appel à tous les sens. Et ils sont amoureux, elle sait chanter, il joue du luth divinement, Et puis, il se régale de confiture de rose et de beignets. Pas seulement aux pistaches, il y en a aussi aux courgettes, parce que c'est comme ça qu'on faisait. Et j'ai pris mes renseignements quand même. Et les beignets turcs, ils sont plutôt salés. Donc, j'ai mis de la pistache, ça fait aussi bien Turquie. Mais j'aime bien mettre la confiture de rose et des beignets de courgettes. On reste réaliste, et les courgettes, c'est bien aussi.
Non, on parlait, Elisabeth l'évoquait, des différences visuelles, graphiques entre ces trois contes de votre nouveau long métrage, Michel Oslo. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez du coup confié l'animation à des équipes différentes ou c'est un même studio? Comment ça fonctionne la création?
D'abord, ça a fonctionné, éclaté ce que je n'aime pas, mais on va où on trouve quelques sous. Du temps de Azur et Asmar, tout le monde m'aimait, même les banquiers. Et j'ai pu faire une chose chère, c'est-à-dire tout le monde au même endroit. Et c'est comme ça que ça marche bien. J'ai pu faire ce film en partie grâce à la Belgique, qui m'aide tout le temps. Et le long métrage Pharaon a été fait totalement à Bruxelles, mais avec une équipe que je connaissais en partie depuis longtemps. On avait travaillé ensemble à Paris. La chose s'est très bien passée. C'est une très bonne équipe. C'était pathétique parce que c'était en période de confinement. Et comme ils vivaient ensemble, on faisait ça en télétravail, on pouvait se voir. Mais eux, je ne pouvais pas les voir parce qu'ils portaient tous un masque. C'était vraiment... Non seulement je ne pouvais pas aller les voir, mais je ne pouvais pas les voir. C'était un peu pathétique, mais ils ont fait une musique visuelle en jouant le jeu de la 2D. C'est vraiment fait à plat, animé à plat, et c'est une bonne manière. Ensuite, on a essayé de faire une partie avec une équipe en télétravail, mais on n'est pas arrivé à bien fonctionner, et à certains moments, on a arrêté. Et en gros, les deux derniers titres ont été faits dans un village perdu dans la forêt en Lorraine.
Mais au départ, Michel Oslo, ça commence toujours vos films, outre les histoires, mais avec une feuille blanche et un stylo. Parce que là, on parle d'équipe, on parle de studio d'animation, mais tout à l'heure, vous nous parliez de storyboard. C'est au tout départ, visuellement, j'entends graphiquement, il y a vos dessins, comment ça fonctionne?
Au départ, il y a l'écriture. Je fais d'abord l'écriture, seul et dans le silence. Ensuite, je fais le storyboard et le dessin des personnages, et c'est moi qui les dessine. Seul et dans le silence, sauf que petit à petit, des gens viennent m'aider. C'est-à-dire que de case en case, je ne vais pas refaire le même décor. C'est quelqu'un qui, avec l'ordinateur, va répéter le décor là où il y a un blanc. On m'aide à terminer certains modèles. Des modèles de passants dans le marché, je les confie à d'autres graphistes. Mais en gros, tous les personnages qu'on voit, c'est moi qui les fais, avec la difficulté de faire un modèle réalisable en 3D. C'est-à-dire que, 3D et 2D, c'est la même chose. On doit donner aux gens l'aspect de la personne de tous les côtés. Face, trois quarts, profil, dos. Et si possible, quelques expressions type. C'est un énorme travail. Et c'est à peu près seul que je le fais. Et ensuite, les gens arrivent et je suis ravi parce que j'en peux plus d'être seul. Et là, c'est que des gens qui aiment notre métier. Et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, c'est aussi le boulot.
L'animation, c'est énorme.
Kérou, tiens-toi convenablement.
Je suis les traces d'un oiseau à trois pattes.
Et ne dis pas de sottises. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte.
L'eau est là!
Comment? L'eau est revenue?
Oui, puissante maîtresse! On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli.
Alors,
on n'a pas pu s'empêcher de vous diffuser un extrait de Kirikou, Michel Oslo. Ici, c'était un extrait de Kirikou hein, et les bêtes sauvages, car il y a eu trois longs métrages d'animation. Le premier étant, bien sûr, Kirikou et la sorcière. C'était en 1998 et c'était la première fois dans le monde qu'il y avait un long métrage d'animation avec pour héros un personnage noir.
Oui, c'est vrai. Et on a commencé par me dire, fais pas un film sur l'Afrique, c'est pas vendeur. Ensuite, on m'a dit, tu pourrais lui mettre une culotte quand même. Et ensuite, on m'a dit, avec encore plus d'insistance que pour la culotte, les dames, il faut leur mettre des soutiens-gorge. Tout ça, je suis parvenu à résister, parce que cette fausse nudité, c'est-à-dire c'est une tenue normale. Quand on est petit, on ne s'habille pas. Quand on sort de sa maman, on n'a pas de culotte. Et les dames, quand j'étais petit à Conakry, étaient torse nu en situation normale. Et pour les fêtes, elles étaient sublimement habillées. C'est une chose que je n'ai jamais oubliée. Et mes souvenirs d'enfant, puisque mon école primaire s'est passée à Conakry, en Guinée, mon enfance a été privilégiée. J'étais entouré de beauté, de bienveillance. Et il fallait évidemment que je fasse un film qui rappelle cette bienveillance. Et il y a aussi le fait que personne n'avait honte d'avoir un corps, contrairement aux musulmans et aux chrétiens.
Et est-ce qu'en 25 ans, y a des choses qui ont changé? Je pense notamment à tout le débat sur l'appropriation culturelle qu'il n'y avait pas en 98. Le fait que...
Peut-être on en parlait déjà, mais oui, j'ai même, après Kirikou, été invité à Genève, peut-être par l'ONU, je ne sais plus qui, pour traiter de ce sujet, l'appropriation culturelle ou le vol culturel. Dans mon cas, dans le cas d'utilisation d'histoire, on ne les interdit pas aux autres. Je pense que ça appartient à tout le monde. Et si un Togolais veut prendre une histoire française, je trouve ça très bien. Ce qui est grave, c'est quand une grande société dépose une mélodie et que le pays qui l'a inventée ne puisse plus la jouer, sauf à payer des droits à... En général, ce sont des Américains. Ça, c'est révoltant. Mais je pense que les contes traditionnels, c'est à tout le monde. En plus, on ne sait jamais d'où ça vient. Ensuite, ils se ressemblent tous. Quelquefois, on en a par-dessus la tête. Ils disent tous la même chose. Tout le monde copie sur tout le monde. Et au cours de cette réunion très officielle, une princesse venue d'Afrique, et toujours des princesses dans ma vie, qui faisait partie du panel de discussion, a dit « Mais Michel Oslo ne doit pas payer de droits à l'Afrique. C'est plutôt l'inverse. Il fait tellement de publicité pour l'Afrique qu'on devrait lui payer des droits. » C'était généreux de sa part.
Merci beaucoup, Michel Oslo. Merci pour cette balade enchantée dans votre univers.
C'est déjà terminé ?
Oui. Et oui, si c'est court.
Mais oui, oui.
Il faudra revenir.
Il faut vite volontiers nous refaire un nouveau film.
Voilà.
Oui, oui, je vais essayer. Là, j'ai accéléré avec celui-ci. Je vais essayer d'accélérer encore, de revenir dans 2 ans.
Et je rappelle le titre de votre nouveau long métrage actuellement en salle, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde, et c'est un prince, figurez-vous, c'est Tamino qui revient avec un deuxième album et ce titre, The Longing. The songs you never sung are the ones you know. The longing never watered is the one that grows. The fog you see it, it's where you want to move. Before a sudden wind takes everything from you. The lips you haven't met,
kiss you in your dreams. The longing never bared. Aches to be revealed. Hear me. Follow this calling. I know you see me. Try to believe me. Hit away your longing. Lonely grow. And your lonely grow.
Du journal du cinéma avec vous, Elisabeth Le Quéré. Alors que Netflix engrange des résultats faramineux, la plateforme a gagné plus de 2 400 000 abonnés ces 3 derniers mois, un nouveau joueur pointe son nez.
Oui, c'est Paramount Plus qui arrivera le 1er décembre en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
Et pendant ce temps-là, les salles sont vides.
Oui, en septembre, les chiffres sont vraiment désastreux. La fréquentation a atteint un seuil critique, à peine plus de 7 millions d'entrées, c'est-à-dire le plus bas niveau, Sophie, depuis la réouverture des salles en mai 2021 à l'issue d'une année de pandémie.
Du coup, tous les yeux se tournent vers Avatar 2.
Avatar 2, dont la sortie est prévue le 14 décembre de cette année, et puis surtout cet autre film, Sophie.
I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything?
Ouais, vous l'avez peut-être reconnu à la bande-annonce de Black Panther 2, Wakanda Forever, qui à l'issue d'un suspense haletant va finalement sortir en salle. Pour résumer rapidement les épisodes précédents, Disney, le producteur, menaçait de le sortir directement sur sa plateforme pour faire pression sur une réforme de la chronologie des médias, cette exception culturelle française. Alors le débat est toujours en cours, Disney va sûrement y peser de tout son poids. En attendant, les fans du Wakanda pourront se donner rendez-vous en salle et non pas devant leur télé. Et ce sera, Sophie, le 9 novembre.
9 novembre, on attend ça avec impatience. Entre 2017 et 2021, un film sur quatre en Europe a été réalisé par une femme.
Selon une étude du Conseil de l'Europe, ce chiffre est relativement stable. Il n'y a pas de baisse, mais il n'y a pas non plus d'augmentation notable, malheureusement. Et parmi les producteurs, c'est à peine mieux, 34% de femmes. C'est encore moins bien pour les scénaristes, 28%. Et ça s'effondre pour les métiers techniques comme chef opérateur, enfin chef opératrice et compositeur. 10% seulement.
Enfin, on termine notre périple au Sénégal où un nouveau cinéma multiplex a ouvert ses portes dans le quartier central de Mermoz, donc c'est à Dakar, à côté d'un hypermarché et d'une chaîne internationale de fast-food. Un complexe construit par le groupe français Pathé. Les premières séances se sont tenues le vendredi 6 octobre avec 7 salles d'une capacité totale de près de 1400 fauteuils. Ce cinéma, donc cette salle supplémentaire, participe à faire revivre le 7e art sénégalais, alors qu'ont ouvert récemment plusieurs autres salles dans la capitale sénégalaise. Reportage à Dakar, signé Théa Olivier.
Assis sur un banc de la place aménagée en face du cinéma, Ousmane, 24 ans, et sa petite amie terminent leur paquet de pop-corn à la sortie d'une séance. Lui a plutôt l'habitude de regarder des films en streaming sur son ordinateur.
Il y a une autre ambiance quand même. On voit déjà la qualité du service. La salle est bien climatisée, bien équipée, vraiment, avec les sons à fond. On est bien.
C'est la première fois que Pauline, 23 ans, rentre dans une salle de cinéma. Elle est allée voir le film américain Woman King sur les guerrières du Dahomey.
On a l'impression d'être dans le film, de vivre le film. C'est un film qui m'a rappelé beaucoup d'histoires que ma mère me racontait par rapport à notre histoire. C'est ça l'Afrique en fait. Donc des films comme The Woman King, des films historiques, des films africains. Ça c'est quelque chose qui pourrait me pousser éventuellement à venir plus souvent au cinéma.
Mais la majorité du grand public sénégalais ne peut pas se permettre de payer une place à 5000 francs CFA, soit un peu moins de 8 euros. En plus d'organiser des activités et d'attirer les écoles au cinéma, la programmation est donc l'enjeu de taille afin de remplir les 7 salles du multiplex, reconnaît Mustapha Samb, directeur de Pathé Dakar.
On a la chance d'avoir déjà 7 salles, ce qui offre une possibilité de représentativité de tous les cinémas. Tous les films blockbusters vont avoir leur place. Mais on est également ouvert à tous les cinémas du monde, et en particulier le cinéma africain et le cinéma sénégalais, pour pouvoir faire revivre la venue au cinéma, qui est quelque chose de très ancré au Sénégal, qu'on avait perdu, mais voilà, qu'il faut remotiver un petit peu.
Avec l'avènement du DVD, du streaming et des séries, la plupart des salles de cinéma sénégalaises avaient fermé à partir des années 2000. Mais pour Frédéric Godefroy, directeur des opérations en Afrique pour Pathé, investir au Sénégal et sur le continent reste pertinent aujourd'hui.
C'est vraiment le bon moment à Dakar, qui est une ville qui en plus est en train de se développer énormément. Aujourd'hui, on a déjà ouvert 3 cinémas en Tunisie. Nous allons ouvrir Casablanca également en milieu 2023 et également Abidjan. L'Afrique de l'Ouest avait une vraie pénurie de cinéma. Il y a une vraie opportunité de s'implanter pour refaire découvrir le cinéma, ce qui va permettre également de pouvoir diffuser beaucoup plus de films locaux et ce qui génère automatiquement des revenus complémentaires pour les films et donc de la création supplémentaire.
À Dakar, 2 cinémas, le Canal Olympia Teranga et Ousmane Sambène, ont déjà ouvert leurs portes ces dernières années. Vont s'ajouter les 3 salles qui seront inaugurées prochainement dans le centre commercial Ciplaza. Théa Olivier, Dakar, RFI.
C'est ainsi que s'achève notre émission que vous pouvez retrouver en podcast et sur le site internet www.rfi.fr. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale consacrée au cinéma du grand réalisateur burkinabé Gaston Kabore. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Les cinémas du monde sur RFI.